Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
C'est l'histoire d'une naissance, à la vérité, à l'amour, à la vie, l'histoire d'une libération, d'une découverte de soi et des autres, l'histoire d'un retour à la foi chrétienne, celle qui prône la vérité, la générosité et l'accueil. Ce roman qui se lit d'un trait est édifiant quant au cadre dans lequel il se situe et que peu de personnes connaissent vraiment. Et il est émouvant aussi quant aux multiples tempêtes psychologiques que va devoir assumer une jeune femme. Ce roman, édité chez Julliard, s'intitule « Béni soit Sixtine » et je suis très heureuse d'accueillir son auteur, Mélisse Adhémar. Mélisse Adhémar, bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors donc, non sans soubresaut, non sans questionnement, non sans hésitation et culpabilité, mais avec un réel courage, une jeune femme, Sixtine, va échapper à un monde par et pour lequel elle a été éduquée. Dans quelle famille est-elle née, cette Sixtine, qui n'a rien à voir avec la chapelle, hein ?
Tout à fait. Sixtine, elle a grandi dans une famille catholique de la région de l'Ouest, puisque elle a grandi à Rennes. Et donc, c'est une famille catholique proche des mouvements traditionnalistes et proche des mouvements intégristes.
Lefebvre.
Voilà, de Monseigneur Lefebvre, qui a rompu, donc après Vatican II, avec l'Église et le Pape, en critiquant en fait tout ce qui avait été mis en place par Vatican II, l'ouverture de l'Église notamment. Et donc, elle grandit dans cette famille-là, très tradie, dans une famille nombreuse. Elle est la sixième. Voilà, il n'y a pas de mystère sur son prénom, Sixtine. Et donc, elle a comme objectif dans la vie de devenir une bonne épouse chrétienne, de rencontrer un mari qui est traditionnaliste comme elle, et d'avoir beaucoup d'enfants. Et en attendant cela, elle fait des études d'histoire de l'art. Et elle attend vraiment pour elle, sa vocation, c'est de devenir épouse.
Alors, comment est-elle en fait, Sixtine ? Elle paraît, soumise, elle est pieuse, c'est une jeune fille très pieuse, elle paraît assez soumise à sa famille.
C'est une jeune fille, ce n'est pas une rebelle, c'est une jeune fille assez, assez sage, assez douce, très pieuse. Elle n'a jamais montré des marques de rébellion très, très fortes, même si quand elle était adolescente, au contact d'une amie de son collège, certes privé, mais pas hors contrat, comme là où ont été ses frères et sœurs, elle a rencontré des gens qui n'étaient pas des gens de son milieu, qui n'étaient pas des catholiques intégristes ou traditionnalistes, et elle a eu des premiers émois adolescents, et de là, en fait, elle a des souvenirs, il s'est passé quelque chose dans son adolescence qui a vite été clos, parce qu'on lui a imposé, parce qu'on lui a imposé d'aller se confesser pour un simple baiser, parce qu'on lui a, on lui a vite montré que c'était un péché, que tout ce qui était fait en dehors de ce qui était autorisé par sa famille était péché. Et donc, elle a refermé cette petite porte d'ouverture qu'elle a eue. Et puis, elle s'est dit... tout ce que je peux faire, c'est suivre les enseignements qu'on m'a donnés pour ne pas être en état de péché mortel et donc être vraiment la jeune femme qu'on attend que je sois, une jeune femme qui va à la chorale, qui va à la messe et qui attend son mari.
Et qui ne porte surtout pas de short.
Et qui ne porte pas de short trop court. Voilà.
Alors, vous faites un portrait vraiment sans concession d'un microcosme dans lequel tout est codé, formaté.
Oui, parce que Sixtine, donc, quand elle était enfant, ses parents évoluaient dans une communauté intégriste, pour le coup, avec des camps pour les jeunes, pour les éduquer. Ce sont des choses qui existent encore aujourd'hui. Hein. Et donc, ces jeunes se retrouvent, les filles et les garçons doivent être séparés très jeunes, parce que tout de suite, on imagine qu'il va pouvoir se passer des choses, qu'il va y avoir des tentations, que le diable va essayer de les tenter. Et pour les jeunes filles, il y a un gros poids sur les vêtements. Il faut qu'elles cachent leur corps. Il ne faut pas qu'elles en montrent trop. Donc, les shorts sont interdits, shorts trop courts, les épaules dénudées aussi. Il faut vraiment être le plus pudique possible. Et il faut avoir un comportement de jeune fille, c'est-à-dire aller à la chorale, ne pas jouer au football avec les garçons. Ça ne se fait pas du tout. Rester vraiment dans ce qu'on attend d'une jeune fille dans ces milieux-là. Et c'est très très précis, c'est-à-dire il y a des façons de s'habiller, des façons de se coiffer, des façons d'être, des façons de parler.
Oui, c'est vrai que ça paraît suranné totalement.
Oui, mais ça existe encore. Il suffit d'aller dans une église intégriste pour le voir.
Alors, ce sont des codes transmis et qui paraissent non seulement véhiculés essentiellement par les femmes, mais qui s'adressent essentiellement aux filles.
Alors, surtout aux filles. Oui. Les garçons aussi. Les garçons aussi, ils ont une tenue un petit peu de base avec les chaussures bateau et la petite polo. Eux aussi, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, mais quand même un petit peu plus. Parce que sur les filles repose cette injonction à la pureté, à la virginité, à être un moment dans une des enseignantes, un petit peu dit...
La transmission se fait par elles.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, les femmes, ce sont elles qui vont élever les enfants. Les maris vont travailler. Et donc, les femmes vont élever les enfants. Ce sont elles qui doivent être garantes de tout ce corpus et de toutes ces bonnes mœurs. Et pour les transmettre, donc, il faut qu'on leur inculque. Et donc, elles ont un poids encore plus fort. Les hommes, eux, ils vont devoir ramener de l'argent à la maison, avoir une belle situation.
Et une vie un peu plus libre, probablement.
Une vie un peu plus libre parce qu'ils vont travailler.
Voilà. Alors, ce roman commence par un mariage. Pourquoi ? Pourquoi avez-vous commencé par là ?
Parce que moi, je crois que c'est ce qui m'a le plus marqué en grandissant, en m'éloignant de ce milieu. C'est quand je revenais l'été à des mariages de mes cousins ou cousines ou d'amis, de frères et sœurs d'amis d'enfance, et que je voyais vraiment toute cette espèce de décorum. Je trouvais ça très hypocrite, à la fois très flamboyant et assez impressionnant. Et ça m'amusait aussi, parce que je trouvais ça tellement... à la fois un peu ringard.
Tout était connoté, oui.
Tout était connoté. Et puis, il y avait encore cette injonction sur les femmes, sur la jeune femme qui va se marier, à être une bonne épouse, à éduquer ses petits-enfants le plus chrétiennement possible. Enfin, il y avait vraiment tout qui était rassemblé. Et je trouvais que c'était une bonne entrée en matière pour montrer ce milieu. Et aussi pour montrer à quel point dans ce milieu, les gens se marient aussi via les mariages.
C'est entre eux.
Entre eux, voilà. Les mariages sont aussi des lieux où les gens vont se rencontrer parce qu'il faut vraiment se marier dans le milieu.
Alors parlons justement du mari. Alors ce mari, qui est-il ? C'est le mari idéal apparemment, pour la belle famille en tout cas.
Voilà, Pierre-Louis Soult de Lagarde, c'est un polytechnicien, un jeune homme brillant, comme il y en a souvent dans ces milieux-là, qui a fait donc de très bonnes études, qui a une belle situation, qui habite à Nantes, et puis qui attend une jeune femme pour fonder un foyer. Et en plus de ça, sa famille est une famille très importante dans cette communauté intégriste. C'est une famille aristocratique. Il y a dans ces milieux-là, il n'y a pas que des grandes familles bourgeoises ou aristocratiques, il y a aussi des gens qui viennent d'un peu n'importe où, qui sont des convertis, mais il y a quand même une prédominance de ces vieilles familles françaises qui sont considérées comme étant l'élite dans ces milieux où il y a encore une espèce d'admiration, voilà, de familles aristocratiques qui peuvent...
Oui, qui ont un arbre généalogique.
Voilà, qui ont un arbre généalogique bien rempli. Ouais. Et donc Pierre-Louis, voilà, c'est vraiment le rejeton de cette famille. Il est brillant, il est beau, il a tout ce qu'il faut.
Il paraît droit dans ses bottes, pour le coup, pour reprendre une expression qu'on a déjà entendue.
Tout à fait.
Oui.
Il est séduisant, il est droit dans ses bottes, et puis on se dit avec lui, voilà, c'est le mari idéal rêvé par une jeune femme catholique traditionnaliste qui veut rester, qui veut trouver avec qui fonder sa famille.
Oui, et là, en fait, il paraît pas être un mari très aimant, en tout cas très maladroit, je trouve.
Il est maladroit parce que, mais bon, le personnage peut paraître pas très sympathique, et il est pas très sympathique, mais en même temps, je pense que c'est assez triste aussi pour lui. C'est que lui, finalement, on lui a toujours dit, voilà, tu seras le chef de famille, tu seras le père de famille, c'est lui qui doit être dur,
doit être
qui
fort,
doit être ferme.
Oui, ne montrer aucune faiblesse.
Exactement,
ça.
Fort. Ouais. Donc il a pas le droit, oui. Finalement. C'est assez triste pour lui aussi, il a pas le droit. Et donc cette épouse, il l'aime quand même. On le voit à un moment où elle s'échappe dans une rue, elle est elle est perdue, elle se sent mal, et puis lui, il la serre dans ses bras, il l'aime en fait, sa femme, mais il l'aime à sa manière, qui est celle...
Il ne faut pas se laisser aller.
Il ne faut pas se laisser aller, c'est-à-dire que même s'il l'aime, eh bien, si elle souffre, elle est enceinte et elle souffre, ce n'est pas prendre de l'aspirine, c'est va dire ton chapelet.
Alors, la belle famille, là, c'est vraiment... elle est dure à avaler, hein. Alors, cette belle famille, qui donc, vous dites, oui, c'est la mère, la belle-mère. Belle-mère, parlons des belles-mères. La belle-mère paraît quand même à vous tenir le haut du pavé. Et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est une personne qui a un pouvoir sur le groupe. Alors, l'appartenance, c'est la congrégation, vous avez trouvé les Frères de la Croix, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors, évidemment, là, il y a un gourou, puisque c'est devenu un gourou, et ils ont rompu avec le Vatican, si j'ai bien compris.
Tout à fait. Donc, en fait, c'est une communauté qui se définit elle-même comme intégriste, comme le sont les intégristes. C'est-à-dire, ils ont décidé qu'après Vatican II, l'Église n'était pas dans le bon chemin, que l'Église, en fait, le pape, en fait, avait été... comme dominé par le diable, et donc c'était le diable qui était à l'œuvre dans l'Église, c'était le diable qui était pour le dialogue interreligieux, c'était le diable qui était pour la messe, non plus en latin, mais dans la langue parlée dans le pays, c'était le diable qui était à l'œuvre, et donc eux étaient les garants de la vraie foi, donc ils n'ont aucun problème à dire que Rome est dans l'erreur, que le pape est dans l'erreur. Cette communauté, les Frères de la Croix, donc elle a ses propres évêques, elle suit la messe dans le rite tridentin, et puis elle refuse tous les signes d'ouverture lancés par l'Église.
Alors donc, contre le Concile Vatican II, contre les nouveaux rites liturgiques, bon, et politiquement, en règle générale, ils se situent à l'extrême droite.
Oui. Alors, ce n'est pas le cas de tous les traditionalistes, mais chez les intégristes, il y a quand même ce lien assez fort à l'extrême droite qu'on peut voir dans des mouvements comme Civitas. C'est quelque chose qui est très présent quand même. Il y a des liens avec l'Action française, avec les milieux, certains milieux royalistes et avec certains milieux d'extrême droite. Il y a vraiment c'est quelque chose de très réel, hein, que moi j'ai pu constater en tant que journaliste, en allant voir sur le terrain au moment du mariage pour tous, et puis avant en suivant Civitas, en allant dans les écoles intégristes hors contrat. Il y a vraiment cette double appartenance, hein, entre intégristes et l'extrême droite. Alors là, ce mouvement a une branche armée, ce qu'ils appellent une milice. Moi, c'est des choses... Il n'y a pas ça partout, mais j'ai pu le constater dans plusieurs milieux, dans la région bordelaise, dans la région nantaise, où des mouvements catholiques intégristes ont aussi cette dimension plus militante.
Militante, voire violente.
Voire violente.
Une milice. Et là, d'ailleurs, ils se voient un peu comme des croisés.
Tout à fait, oui. Ouais. Alors, c'est quelque chose qui peut être assez étonnant, parce que ce sont des gens qui ont fait des bonnes études. Donc, souvent, quand même, les mouvements d'extrême droite assez... comme ça, assez violent, on n'imagine pas que ça puisse être des milieux.
Ouais,
et ce qui est assez vrai, c'est que souvent, on laisse un peu les premiers couteaux, ce ne sont pas forcément ceux qui ont
les
fait des grandes
diplômés.
Voilà, les plus diplômés. Mais il n'empêche que ça existe aussi. Moi, j'ai pu le voir, le constater. Ce n'est pas très fréquent, mais ça existe.
Oui. Et évidemment, c'est cette évolution des mœurs qui peut parfois paraître un peu aberrante, effectivement. Ouais. Mais là, ils sont... contre le mariage pour tous, vous venez de le dire, les immigrés, les juifs, les homosexuels, les punks, etc.
Oui, en fait, ils sont vraiment pour eux, la société, et ils mettent tout dans le même panier. C'est-à-dire qu'ils refusent tout. Ils refusent toute évolution de la société. Pour eux, toute évolution, en fait, est l'œuvre du diable, est mauvaise, et donc ils veulent une espèce de race pure. Il y a ce mythe de la race pure avec donc un refus de l'immigré quel qu'il soit, une fermeture en fait aux autres, et puis en fait une peur. Je pense qu'ils sont dominés par la peur de perdre du terrain.
Oui, alors c'est ça qui est intéressant. Ça serait une autre émission qu'il faudrait faire sur le pourquoi. Alors je suis allée me renseigner parce que pourquoi cette peur, cette fermeture, Bon, cette recherche d'appartenance également, de se retrouver en se sentant supérieur quand même aux autres, hein, aussi. Il y a des tas d'explications qui sont intéressantes, mais voilà, il faudrait faire une autre émission là-dessus. Alors, moi, j'en reviens à la belle-mère, parce que c'est un sacré morceau, disons, hein, la gardienne du temple, je dirais, qui n'hésite pas à faire des intrusions dans la vie de ses enfants, de la vie des adultes, de ses enfants adultes.
Oui. Alors, je pense que ça, c'est pas quelque chose qui est propre aux familles intégrées. Je pense que c'est plutôt propre à certaines...
Aux belles-mères, vous avez dit.
Aux belles-mères, presque, non. Mais au moins, un certain milieu assez bourgeois où peut-être la belle-fille se doit de... Et comme j'ai déjà entendu ça dans la parole de jeunes femmes, ils disaient « je ne suis que la pièce rapportée, donc je me dois d'accepter... »
Et puis elles sont bien élevées.
Et puis elles sont bien élevées, donc elles ne vont pas dire, elles vont pas mettre les poings, taper sur la table et dire « bon, ça suffit, là, je suis chez moi ». Et puis il y a aussi ce côté transmission, donc cette belle-mère, elle veut s'assurer que ses petits-enfants seront bien élevés comme il faut, et puis elle la trouve un petit peu faible, cette Sixtine. Elle n'est pas hyper... Elle l'aime bien,
franche du collier.
Voilà, elle trouve qu'elle en fait trop, qu'elle se plaint de sa grossesse, alors qu'elle en a eu 8, elle n'a rien dit. Enfin, voilà, elle la trouve un peu faiblarde, et puis elle voudrait qu'elle se renforce un petit peu. Donc, pour elle, c'est normal. Elle fait son rôle, en fait, de chef de famille aussi, à sa façon. Elle vient pour la renforcer.
Il y a un encadrement constant. Et alors, les maîtres clés pour les femmes, c'est quand même, alors, chasteté, même dans le mariage, dit-elle à un moment donné.
Tout à fait.
L'obéissance, soumission, contrition, effacement. Hein, c'est ça,
je résume. Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la jeune femme ne doit pas se mettre en avant. Il y a donc ce fameux port de la mantille à l'église. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours... ça m'a toujours fait rire, en fait, parce que je trouve ça tellement hypocrite de pourquoi les femmes doivent-elles cacher leurs cheveux avec un petit voile un peu transparent.
Vous pouvez le poser dans d'autres religions maintenant aussi.
Bien sûr, bien sûr, mais dans toutes les religions, en fait, je vois pas pourquoi c'est aux femmes de cacher leurs cheveux. Je me dis, si les hommes ont un problème avec les cheveux des femmes, c'est à eux peut-être de se crever les yeux, je ne sais pas, mais je trouve que c'est vraiment prendre le problème à l'envers. Et les femmes doivent toujours être dans l'humilité, dans... Ne pas se mettre en avant, ne pas trop se montrer. Et donc, Sixtine, ça, là-dessus, ça va. Elle n'en fait pas trop. Mais par contre, elle a cette faiblesse. Et puis, elle a quelque chose en elle qui n'est pas assez... Comme si, elle n'est pas à fond dans cette communauté intégriste. Et ça, c'est aussi quelque chose de que moi j'ai pu constater et qui est vraiment énorme, c'est que chez les intégristes même, il y a plusieurs communautés et qu'entre eux, ils se détestent. Ils se détestent, c'est-à-dire qu'une fille d'une communauté intégriste qui va se marier avec un bonhomme d'une autre communauté mais qui n'est pas de la même, c'est
tribal.
Très mal vu.
Oui, c'est
tribal. Mais c'est vrai, c'est très mal vu. C'est vraiment, ils se détestent entre eux. Ils se détestent au point de ne pas se parler, parce qu'il y a vraiment un côté secte et gourou et que le père
supérieur...
Il y a une rivalité, il veut garder ses ouailles. Et donc, pour ne pas qu'ils aillent ailleurs, et il faut se marier avec des gens de la communauté. C'est pas seulement se marier avec un catho, c'est se marier avec quelqu'un d'intégriste et de cette communauté-là.
Oui. Alors, on va suivre Sixtine tout au long de votre roman. Elle vit mal sa vie d'épouse. Bon, la nuit de noces a été catastrophique. Et elle vit mal sa vie de future maman. Elle est enceinte. Ouais. Et à un moment donné, vous m'avez proposé la lecture d'un passage.
Tout à fait. Donc, c'est un passage du roman où Sixtine donc, apprend qu'elle est enceinte. Un jet épais s'écoule de la bouche de Sixtine, se répand sur le macadam. Les mocassins blancs sont souillés de vomi. Pierre-Louis n'en saura rien. De toute façon, ce soir, il n'est pas là. Une réunion hebdomadaire des jeunes nantais de la milice. Ils se retrouvent pour lire les enseignements des frères de la Croix, débattre, prier, boire un verre, préparer des actions. Quelles actions ? Avait demandé Sixtine. On colle des affiches pour défendre les valeurs chrétiennes, lutter contre le mariage des homos, pour la défense de la vie. Une fois, on a appelé au boycott d'une pièce de théâtre blasphématoire, des choses comme ça. Sixtine se retrouve seule dans la grande maison bourgeoise qui est la sienne. Il y a 5 chambres vides. Combien de vomi dans le caniveau devra-t-elle faire pour parvenir à les remplir ? L'abattement l'emporte. Tant pis pour ses souliers maculés. Ils attendront demain. Il faudrait se ressaisir, prier Sainte Marguerite, préparer un cake sucré pour accueillir correctement sa belle-sœur Élisabeth demain à 11h. Elle est étudiante dans un double cursus droit et histoire. Pas encore mariée, affublée des mêmes cheveux frisés et courts que sa mère, du même caractère, voix forte, poitrine puissante, joues rouges. La passion d'Élisabeth s'appelle la généalogie. Le service des archives départementales et celui des archives de l'évêché de Nantes la connaissent très bien. Elle est leur plus jeune et plus fidèle abonnée. Bien sûr, Élisabeth a fait de l'arbre généalogique des sous de la garde. Elle est remontée jusqu'au XIVe siècle. Il y aurait même du sang royal dans les veines de Madeleine. Préparez un cake, donc. Même si Sixtine n'a aucune envie de battre les œufs, d'ajouter du lait, de la farine, du sucre, des fruits secs. La seule image de ces ingrédients lui donne des hauts le cœur. Elle manque de vomir à nouveau en ouvrant la porte du frigo. Le cake attendra demain, comme les mocassins et la prière du soir. Sixtine s'affale sur le lit conjugal, une bassine posée sur la table de nuit de Pierre Louis, à côté d'une photo encadrée de frère André, mort un an plus tôt en état de sainteté, et d'une reproduction du Saint-Suaire. Le visage souffrant du Christ devrait rappeler à Sixtine que Dieu, son Sauveur, a tant donné pour les hommes pécheurs. Ce que je vis à côté des souffrances de Jésus-Christ n'est rien, rien qu'un vomi sur le macadam.
Alors, frère André, que vous venez de nommer, c'est le gourou de ce mouvement, de cette secte, je dirais.
Oui, tout à fait. C'est assez caractéristique. Hein, dans ces groupes, il y a comme un père supérieur ou un directeur de conscience qui prend très vite une figure de gourou, puisque de son vivant, tous les membres de la communauté vont avoir des portraits de lui. Et puis sa parole devient plus importante que celle du Christ elle-même.
Alors, Mélisse Adhémar, je vais vous proposer une pause musicale. Alors, vous m'avez parlé c'est un chant, je ne connais pas du tout. Alors, comme vous parlez espagnol, je suppose, vous allez annoncer à nos auditeurs de quoi il s'agit.
C'est Mercedes Sosa, c'est une chanteuse argentine, très, très célèbre en Argentine. Et c'est le Pide a Dios, sa chanson.
Oui, ce qui signifie
Je demande à Dieu.
D'accord.
Ahora lo voy a cantar todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Yeah.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons Mélisse Adémar qui vient nous parler de son roman intitulé « Béni soit Sixtine » édité chez Julliard. Oui, alors nous avons quitté Sixtine enceinte, malade, bon, ce qui peut être assez fréquent, mais on sent qu'elle est mal, elle est pas, l'attente de ce bébé ne la remplit pas de bonheur et il va se passer un tsunami dans sa vie.
Oui. Tout à fait. Peut-être que je ne le révèle pas, je ne sais pas.
On peut en parler. Je pense qu'on peut en parler. On ne parlera pas de la fin de votre roman, certainement pas.
Oui, non, parce que, d'accord, mais
là,
oui, en
on
effet.
On peut en parler parce que c'est important, je pense, parce que ça va provoquer un changement énorme.
Tout à fait, oui. Donc Sixtine, oui, elle est enceinte, elle le vit mal. Et surtout, on lui interdit de se plaindre. Et puis, elle se voit dans cet avenir où elle se sent obligée d'avoir d'autres enfants, de vivre d'autres grossesses. Et ça lui semble impossible à surmonter. Et puis donc, Pierre-Louis part faire une expédition, une espèce d'action coup de poing contre une fête pour un concert, en fait, qui fête le mariage pour tous. Et dans l'événement, qui doit être juste un espèce de coup d'éclat pour casser trois baffles, quelque chose comme ça, l'événement dégénère et Pierre-Louis meurt. Et donc Sixtine se retrouve veuve, enceinte, et complètement perdue. Déjà, elle ne va pas très très bien. Et donc c'est vraiment pour elle, c'est un moment où elle flotte, elle est comme flottante. Il y a l'enterrement de Pierre-Louis, où il y a beaucoup de gens. Et puis en même temps, quand elle voit les informations, il y a un autre jeune qui est mort de l'autre côté, un jeune militant d'extrême gauche qui est mort. Et donc elle se demande si Pierre-Louis ne l'a pas tué. Et elle, la seule chose finalement qui l'obsède, c'est son mari est-il un meurtrier ?
Oui. Et ça va être, je dirais, on va voir les premiers signes de sa volonté de se libérer. Alors, il y a cet accouchement déjà, seul, et puis le prénom de l'enfant. Alors là, c'est assez drôle. Et d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi Foucault est-il présenté comme... Parce que bon, tout le monde connaît le père Charles de Foucault, qui était un personnage, justement, il me semblait très tolérant, moi. Alors je me suis dit, mais peut-être que tu ne connais pas assez père Charles de Foucault.
Alors je pense que le père de Foucault, c'est assez étonnant comme personnage parce qu'en effet, lui, il avait une vie assez même dissolue avant de rentrer dans les ordres. Après, il était en Algérie.
Il est parti dans le Hogar.
Tout à fait. Donc, il avait une vie au contact de musulmans. Une vie spirituelle très riche. Et il est servi d'inspiration à la fois à des mouvements assez ouverts et en même temps à des mouvements tradis assez très fermés. C'est assez étonnant. Qui voyait en lui comme... Parce qu'il avait quand même une volonté de convertir les musulmans. Et du coup, certains catholiques intégristes ont vu en lui comme un nouveau croisé qui était parti tout seul avec son missel pour convertir les bédouins. Donc, il y a un peu ces deux dimensions. Son héritage est assez... se partage entre des tendances assez différentes.
Alors... On va assister à une chose que vous décrivez très bien d'ailleurs, cette ouverture à l'amour maternel. Elle a enfin un vrai bonheur, un bonheur à elle.
Oui, tout à fait. Alors ça, je pense que c'est peut-être la chose la plus autobiographique du livre. Moi, j'ai trouvé que dans ces milieux, et les jeunes femmes que j'avais retrouvées de ces milieux-là ne me parlaient de leurs enfants qu'en termes de « c'est dur, c'est compliqué, il y en a beaucoup, il faut s'en occuper, il faut faire à manger, il faut les éduquer, il faut faire la prière du soir », vraiment qu'avec des choses comme si c'était une plaie. Et moi-même, quand je suis devenue maman, peu de temps avant de commencer ce livre, j'ai été frappée par la chose qui m'a semblé le plus important, c'est-à-dire un coup de foudre, un coup de foudre incroyable pour ce bébé qui était là tout à coup et qui était l'amour de ma vie. Et en fait, je me suis dit, c'est fou parce que c'est quelque chose de tellement beau, de tellement qui dépasse tout et toutes les souffrances qu'il y a autour. que je me suis dit, ça peut être quelque chose qui, pour cette jeune femme qui se retrouve seule, ce qu'elle n'aurait pas pu se permettre avec son mari, avec des visites, des obligations, etc., où elle aurait dû tout de suite remettre un autre enfant en route et donc avoir d'autres souffrances et ne pas profiter de celui-ci, tout à coup, elle se retrouve seule avec lui, elle va se raccrocher à lui et elle va le vivre, ce coup de foudre. Et elle va le vivre pleinement.
Ouais.
Et c'est ça qui va être le début de sa libération. Tout c'est parce fait. Que tout à coup, pour cet enfant, elle va devenir prête à tout.
Et il y a de très belles pages tout au long de votre ouvrage, là-dessus en particulier. Vous permettez, je lis un extrait. « Sixtine ne ressent plus la douleur, plus rien. Seulement ce corps nu posé contre le sien. Il dort. Elle plonge le nez dans les cheveux noirs du nourrisson. La sage-femme et l'auxiliaire de puéricultrice sont partis, les laissant seuls. Le monde attendra demain. Elle le contemple. C'est un vrai bébé. » Avec des yeux, des sourcils et des cils, un nez retroussé, une bouche en forme de cœur, vraiment. Et des mains, incroyables ces mains, fines, délicates, avec des ongles déjà trop longs, des plis partout, des pieds aussi, et des cuisses de batracien rétractées, il a tout. C'est vraiment un bébé, pas un chou ni une bête, et sa petite bouche se tortille, cherche quelque chose. Sixtine déboutonne sa chemise, hisse la tête minuscule jusqu'à son sein, alors il tète, le bébé tète quelques gorgées, béate, et se rendort, cligne ses petits yeux moites. Sixtine le contemple. Elle le trouve incroyable, surnaturel. Même une fois la chambre gagnée, elle renonce à l'installer dans le couffin en plastique transparent et se blottit contre le bébé endormi, un vrai bébé. C'est beau.
Mais c'est ça aussi, je pense, la maternité. Pour moi, je voulais aussi parler de cette façon de la maternité parce que je trouve qu'on en parle beaucoup sur le baby blues, tout ce qu'il y a autour. Et ce qui est vrai, ce qui existe aussi, ce qui est vrai. Mais il y a quand même cette espèce d'élan amoureux incroyable qu'on ne vit qu'avec son bébé qui est fantastique. Et puis c'est tellement fou, une naissance, de voir tout à coup qu'on a fabriqué soi-même un être qui est là. C'est quelque chose de fou. Et je trouvais que ça pouvait être, dans ces familles où on fait tellement d'enfants, qu'on n'en parle même plus parce que c'est normal, on en est au 7e, au 8e, une naissance, c'est qu'une naissance de plus. J'avais envie, elle, qu'elle puisse vivre ce moment, de lui offrir ça, qu'elle puisse vivre ce moment de façon très intense, pleinement.
Ça la porte, ça l'aide à avancer.
Tout à fait. Et que ce soit un début de sa libération. Que ce soit vraiment ça.
Alors, donc, elle prend une autre décision. Elle fuit. Vous savez, j'ai pensé à un film très actuel, enfin très actuel, non pas tant, Thelma et Louise. Je ne sais pas si vous avez vu ce film.
Je ne l'ai pas vu, non.
Qui fuit, toutes deux jeunes femmes, qui fuient pour échapper justement, échapper à des contraintes sans nom. Et là, elle fuit et elle va se réfugier au monastère de Sainte-Scolastique de Dourgne. Mmh. Et là, elle va rencontrer tout ce dont elle avait besoin.
Oui, c'est ça. En fait, Sixtine, donc, elle a des souvenirs à Dourne où elle avait été avec une chorale assez ouverte de jeunes filles. Donc, elle a des bons souvenirs de là-bas. Et quand elle part, elle ne sait pas où aller. Elle est seule avec son enfant. Elle pense partir quelques jours prendre l'air. Et donc, elle se retrouve là-bas. Et en fait, elle trouve tout ce dont elle a besoin, c'est-à-dire des gens qui lui demandent, qui lui disent pas ce qu'il faut faire, qui trouve son bébé beau, qui lui disent juste qu'il est beau, et puis qui la laisse vivre sa vie, et elle peut aller à l'office si elle veut, elle peut aller se promener si elle veut, elle n'a de compte à rendre à personne. Et ça, en fait, tout à coup, c'est une liberté qu'elle trouve là-bas. Et moi-même, je suis allée dans ce monastère pour commencer l'écriture du roman, parce que c'est un endroit que je trouve très beau. Et en fait, j'ai trouvé ça merveilleux de me retrouver avec d'autres autres qui étaient là comme moi, des gens qui étaient très croyants, d'autres qui ne l'étaient pas du tout, et qui se laissaient porter par ce lieu où on ne vous demande rien. Et il y avait une dame de 50 ans qui s'est retrouvée tout à coup à l'office et qui pleurait, et qui m'a dit « Mais c'est beau, je sais pas en quoi je crois, mais c'est beau. » Et en fait, je trouvais ça, je trouvais que c'était vraiment un espace de liberté, de ressourcement spirituel.
Oui, tout à fait. Et vous le dites bien, et on voit aussi que la foi de Sixtine reste intacte.
Oui, en fait, je voulais que ce soit un premier pas. En fait, c'est vrai que toute la première partie, on voit ce côté vraiment embrigadement, enfermement.
Et ce poids
de la foi, de la façon dont cette foi est vécue par les intégristes. Et donc, elle part, mais en même temps, elle se raccroche aussi à cette foi. Et en fait, sa foi, petit à petit, elle va découvrir une relation à Dieu qui est très différente de celle qu'elle avait au début, qui n'est pas juste la peur du fouet, la peur de l'enfer, la peur du péché, mais qui est une relation plus saine, plus tourné vers les autres, vers l'amour des autres, moins dans le sacrifice permanent, mais plus finalement dans une espèce de joie de vivre et d'offrir et quelque chose qui
quelque
est...
Quelque chose aussi de paisible.
De plus oui. paisible, ouais, oui. qui n'est pas tout le c'est temps ça, dans ouais. l'autoflagellation.
Ouais. Ouais.
Et du coup, qui se détourne aussi de soi, parce que dans ce côté autoflagellation, on est tout le temps en train de regarder est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, c'est aussi... On est très tourné vers son nombril, en fait. Mmh. Et moi-même, quand j'y repense à tout ce qu'on nous faisait dire avec ces confessions très régulières où il fallait vraiment se scruter soi-même, je me dis c'est aussi une façon d'être très tournée sur soi et du coup de ne pas s'ouvrir aux autres. Et donc petit à petit, elle oui. va s'ouvrir.
Alors, elle continue son road movie. Voilà pourquoi j'ai parlé de ce film Thelma & Louise. Son road movie parce qu'elle doit partir... pour échapper justement à certaines contraintes familiales, on ne va pas donner les détails, et elle va atterrir alors dans un lieu, dans un village du Rouergue, bon, où elle va rencontrer une population totalement différente. Là, elle fait très fort, effectivement. Mmh. Elle part dans un... Elle rencontre des personnes qu'elle n'a pas forcément choisies, mais qu'elle va apprendre à connaître.
Oui, en fait, elle arrive à Sauveterre de Rouergue et donc elle rencontre des gens qu'il y a dans ce village, c'est-à-dire elle avait toujours vécu dans son milieu, dans son quartier très bourgeois, très citadin, et puis dans ces mondes-là, et puis à la campagne, moi j'ai grandi à la campagne, mais à la campagne, votre voisin, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de lui parler, même si il n'est pas du tout comme vous, même s'il ne vous ressemble pas. Et donc elle commence par rencontrer sa voisine qui est coiffeuse et qui est une mère divorcée, qu'elle qualifie de vulgaire parce qu'elle porte des mini-jupes, des talons et qu'elle a des cheveux teints en blond. Et donc tout ça, pour elle, c'est vraiment le type de personne qu'elle n'aurait jamais côtoyé dans sa vie d'avant. Mais là, elle la croise ouais. matin et soir, et puis cette fille est gentille avec elle.
Elle la découvre.
Elle la découvre, oui. et puis elle va à la messe de sa paroisse parce qu'elle ne sait pas où aller, elle va à la messe du village, et puis là, elle découvre un prêtre qui est un prêtre plutôt prêtre ouvrier.
La guitare.
Voilà, qui a rien à voir, qui lui parle avec tout le monde, qui est oui. très ouvert.
Qui se fait appeler par son prénom.
Exactement, voilà, oui. on ne dit pas mon père, on l'appelle par son prénom, presque on le tutoie. Alors elle, ça la choque parce qu'elle n'a jamais
Elle est très marquée, en fait, par son éducation, obligatoirement.
Tout à fait, oui.
Dans un premier
et donc,
temps,
ouais. dans un premier temps, elle est très choquée par tous ces gens qu'elle rencontre. Et puis, alors en plus, il y a des types un peu punk à chien qui vivent dans une ferme autogérée. Donc, alors là, pour elle, ça, c'est... elle regarde ça, elle ne sait même pas ce que c'est. Elle n'a même pas conscience, en fait, de tous ces milieux-là, parce que ces gens-là ont tellement vécu en vase clos qu'ils ont... ils voient juste l'extérieur comme une grosse masse de gens, d'impies, mmh. mais ils n'ont pas du tout...
Que ce sont des individus.
Des individus, ouais. puis qu'il y a encore plein de milieux différents. Mmh. Et donc, elle-même, elle est très naïve, et donc elle est un peu... Elle côtoie ces gens, mais elle a quand même une tendance à aller vers ceux qui lui ressemblent le plus. À un moment, elle va vers un jeune homme qui la courtise
un petit peu. Qui paraît bien sous tout rapport.
Voilà, qui est bien sous tout rapport, qui est plus de son milieu, ouais. qui est d'une famille catholique, même si... Et en fait, elle est choquée de voir à quel point lui aussi, il va pas être comme ce qu'elle attend des hommes de son milieu, parce que c'est un catholique plus ouvert, et donc si elle veut pas lui, il va aller vers une autre. Voilà, il est pas, c'est pas quelqu'un qui a été éduqué comme elle, et donc petit à petit, elle va avoir aussi des déconvenues sur ce monde-là.
Oui.
C'est que c'est pas tout rose.
Alors,
ce monde-là
de temps
pas tout
en
rose.
Temps, je dirais qu'elle a quand même des rechutes. Bon, elle a quand même facilement un sentiment du péché, de culpabilité, donc des moments d'angoisse aussi. Bon, effectivement, elle a tellement rompu, elle a rompu avec tellement de choses, disons, que c'est difficile. Mais quelle force de caractère. On voit aussi qu'elle est elle a des désirs charnels, chose qui quand même était très mal vue dans son milieu. Et là aussi, c'est quand même intéressant de voir qu'elle est à la fois attirée, qu'elle voudrait connaître, parce qu'elle ne connaît rien en définitive de la vie. Alors, cette population marginale, bon, c'est assez drôle, en définitive, de voir comment se font les rencontres. En tout cas, elle est en quête de vérité. Alors, en fait, ce qu'elle va découvrir à un moment donné, c'est qu'elle va découvrir qu'elle a été très naïve. C'est quand elle fait un retour chez elle, un retour express, elle va découvrir... des choses qu'on lui a cachées, par exemple, sur son mari. Et là, c'est assez étonnant parce qu'en fait, il y a encore une autre page qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'elle va voir son grand-père. Je saute des étapes. Hein. Elle va voir son grand-père.
En fait, Sixtine, elle se rend compte petit à petit quand elle part dans cette fuite. Et puis donc, elle est toujours, comme vous dites, elle est partie comme une louve, prend son petit dans la bouche un
tout
peu
par fait. Oui, exactement.
Un instinct de protection. Elle n'a pas réfléchi. Elle a pris son petit par la gueule et elle s'est enfuie parce qu'elle avait peur pour lui, en fait. Et elle se retrouve dans un monde qui n'est pas le sien. Et donc, elle est quand même perdue. Elle se pose plein de questions parce que elle est quand même très attachée aux valeurs qu'on lui a inculquées. Et en même temps, ses yeux petit à petit s'ouvrent et elle commence à regarder, à entendre, à poser des questions, ce qu'elle fait sur son mari qui a eu des aventures avant de la connaître. Et donc, en fait, elle réalise à quel point ce monde dans lequel elle était est très hypocrite. Et aussi, comment sa propre mère lui a caché des choses. Elle a des doutes sur l'histoire familiale. Donc, sa belle-sœur avait essayé de faire son arbre généalogique. Et puis, il y avait des trous,
oui,
des gros trous.
Oui, et la belle-sœur s'est empressée de venir lui rapporter.
Voilà, la belle-sœur lui a dit, bah, écoute, qu'est-ce qui se passe là? On ne sait pas qui sont tes grands-parents maternels. C'est un problème. Il faut qu'on sache d'où tu viens. Et donc, elle-même, elle a des trous dans son histoire. Et elle commence à se dire, est-ce que je ne suis pas un petit peu un pantin à qui on a caché beaucoup de choses? Et petit à petit, en s'émancipant avec cette vie très simple, avec son enfant dans ce village, elle va s'ouvrir et comprendre plein de choses, et comprendre notamment que son histoire familiale n'est pas celle qu'on lui a racontée. Et qu'en fait,
il y a un secret de famille.
Il y a un secret de famille, et ses grands-parents maternels ne sont pas des Russes blancs comme on le lui avait promis. Ce n'est pas, voilà, sa famille n'est pas celle qu'on lui a dit.
Alors, ce qu'il y a aussi de très intéressant dans votre ouvrage, c'est que finalement, ce n'est pas un récit linéaire, parce qu'on voit quand même qu'elle est encore marquée, comme je le disais tout à l'heure, par son milieu, son éducation, forcément, qu'il y a des tentations de rechute de temps en temps, qu'il y a une difficile cohabitation avec les marginaux qu'elle rencontre. Hein, bon, elle n'en fait pas partie, et elle sait qu'elle n'en fera pas partie. Enfin, en tout cas, et cette découverte de ce secret des familles. Alors, moi, j'étais très intéressée aussi par la construction de votre roman, que ce roman qui commence par l'élément clé, le mariage de Sixtine. Et puis après, bon, ce drame. Et ensuite, c'est la deuxième partie de votre ouvrage qui montre le changement de vie. C'est-à-dire qu'il y a deux parties, la vie avant, la vie après, et qui s'équilibrent en définitive.
Hein? Oui. Bon, c'est amusant parce que moi, quand j'ai eu l'idée de l'histoire, je l'ai eu un petit peu comme un flash comme ça dans ma tête. Oui. Et je pensais que la première partie, moi, je voulais la libérer, cette fille. Je me suis dit, je veux prendre une fille de ce milieu, puis je veux la libérer. Et en fait, je ne pensais pas que la première partie allait prendre autant de place. Et en même temps, j'avais tellement de choses, tellement de souvenirs, tellement de choses en moi, que petit à petit, ça s'est construit comme ça. Mais c'est vrai que moi, au départ, ce que je voulais raconter, c'était la libération. Et puis, c'était cette rencontre. Je trouvais ça même amusant. Je me disais, c'est marrant quand même de mettre une de ces filles là au milieu d'un village comme ça, avec des gens qui n'ont rien à voir, qui la voient comme un extraterrestre. Parce que moi, j'avais des amis qui me voyaient moi-même comme un extraterrestre quand j'étais enfant, qui me disaient, comment ça, tu regardes pas Hélène et les garçons, mais pourquoi t'as pas le droit, mais t'as pas le droit d'avoir un petit copain, c'est interdit. Enfin, des choses, on me disait, mais tu viens du Moyen-Âge, c'est des choses que j'ai entendues, et je me disais, c'est marrant de la transporter. C'est marrant et c'est pas marrant pour elle parce que c'est aussi douloureux, mais de la mettre dans ce monde-là, je pensais pas que la première partie allait prendre autant de place. Et en même temps, c'était nécessaire de raconter ce milieu, de le décrire pour qu'on comprenne après à quel point cette libération est difficile.
Bien sûr.
Parce que c'est dur de s'en sortir.
Et finalement, cette rencontre de ce milieu marginal, par exemple, c'est un maillon. Ça lui permet peut-être en effet d'accéder à autre chose.
Tout à fait. En fait, moi, ce que je voulais, je voulais que dans Sauveterre, elle voit plein de milieux différents, c'est-à-dire voilà les médecins un peu catholiques sympas du village, la voisine coiffeuse ex-petite copine de rugbyman, puis les marginaux, parce que c'était aussi une réalité de la vie à la campagne. Et en fait, tout à coup, ça s'est un peu fait sous mes yeux, elle est tombée amoureuse d'un homme qui ne lui ressemble pas. Et je me suis dit, c'est intéressant de voir jusqu'où ça peut aller. Parce que,
tout en restant lucide.
Tout en finalement. Restant lucide, c'est-à-dire qu'elle sait que cette histoire d'amour est impossible, mais en même temps, je trouvais ça intéressant de voir à quel point une attirance, une espèce d'élan amoureux comme ça, peut jusqu'où ça peut aller. Et je ne voulais pas non plus qu'elle... je voulais qu'elle devienne de plus en plus forte, c'est-à-dire qu'elle ne fasse pas comme ce qu'elle avait fait avec Pierre-Louis, de s'oublier elle-même par amour et par devoir, mais que là, ce soit autre chose. C'est-à-dire que ce soit aussi comme un jalon qui lui permet d'apprendre à se connaître, à savoir ce qu'elle veut, à se libérer. Et en même temps, je trouvais ça beau de voir à quel point un élan amoureux peut nous pousser à franchir des portes et à sortir de son milieu et d'accepter cela.
Voilà, et puis ce roman donc est émaillé des lettres d'Erika. Alors Erika, on découvre que c'est la grand-mère, et petit à petit on comprend, alors parce qu'il y a un suspense en fait dans votre ouvrage aussi, il y a un suspense, on commence à comprendre qu'il s'est passé des choses. Alors pour terminer, Maëlys, disons que... elle va accéder à une nouvelle vie, on ne va pas dire laquelle, mais il y a deux symboles là-dedans que j'ai beaucoup aimé. Le symbole de la petite caravane, qui est celui de la vie simple qu'ont eu et heureuse qu'ont eu les grands-parents, et qu'elle va donner, et pour cause, elle va le donner à celui qui lui a fait découvrir quelque chose de merveilleux. Et puis le symbole de la corde, et ça c'est quand même la corde qui permet de passer... Et elle va passer cette corde à son fils, finalement.
Oui, la corde lisse de la grand-mère, qui n'est pas celle qu'on pensait être et qui était une femme très libre, peut-être trop libre, et qui n'avait pas réussi à garder, donc la mère de Sixtine, à lui transmettre ce qu'elle elle avait en elle. Et ça, je trouvais ça aussi important de montrer ce lien entre les générations, voilà. Et comment, malgré ces trous qu'il y a eu, c'est-à-dire malgré les non-dits, malgré les mensonges, on arrive à recréer un lien entre des générations, des femmes qui ne se sont même pas connues. Mais il y a un lien qui se crée malgré tout. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on connaît tous dans
nos
familles.
Un autre pan aussi très intéressant de votre ouvrage. En tout cas, Maëlys Adhémar, je vous remercie.
Merci à vous.
Je vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de ce roman intitulé « Béni soit Sixtine » et édité chez Julliard. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.